7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, cette question indiscrète, où passe l'argent des femmes ? Aux soins des enfants, aux produits de beauté, à l'épargne bancaire, qu'elles soient reines du budget ou taxées de frivoles, finalement, quelle est leur relation à l'argent ? À l'échelle mondiale, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à posséder un compte en banque. Sur les réseaux sociaux, on voit maintenant des coachs en gestion de budget et patrimoine pour les femmes qui sont donc de plus en plus visibles. Et le message est clair, votre banquier ne sait pas vous parler parce que vous êtes une femme. Et chez vous, les voisines, qui gère votre argent ? Racontez-nous vos dépenses, vos aspirations financières. Notre numéro de WhatsApp ne change pas, alors appelez-nous dès maintenant. N'attendez pas la fin de l'émission. Ne laissez pas les autres parler à votre place. Appelez-nous, les voisines, au 33 7 64 45 51 41. Je vous présente nos invités. Héloïse Boll, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseillère en gestion de patrimoine, fondatrice aussi de Oseille et Compagnie. C'est comme ça que vous conseillez des femmes. Vous n'avez pas beaucoup d'hommes parmi vos clients ?
Environ 15%.
D'accord. Donc le message aussi est très clair. Vous avez publié « Les bons comptes font les bons amants ». Un titre éloquent aux éditions du Cherche Midi. Nous sommes aussi en ligne avec Lucille Quillet. Bonjour Lucille.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes journaliste et vous avez publié « Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes » aux éditions « Les liens qui libèrent ». Et je vous rappelle notre compte WhatsApp, les voisines, 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Je vous lis ce message. ONU, qui est à Lomé au Togo, l'argent de la femme, c'est comme le sexe du coq. On ne le voit jamais. Ce sont ses ouvrages que l'on voit. Je ne sais pas comment les voisines doivent comprendre votre message, ONU. Beaucoup de voisines nous ont envoyé aussi des notes vocales parce qu'elles travaillent, qu'elles n'ont pas le temps de participer en direct. Et oui, c'est toujours la double journée des femmes. Écoutez celui-ci.
Bonjour les voisins, bonjour les voisines. C'est la voisine Yoka Alciane depuis Brazzaville. Alors, en ce qui concerne les dépenses chez moi, mon argent, je le mets souvent dans les dépenses quotidiennes du foyer. Je m'occupe de ce qui concerne le petit déjeuner, les vêtements souvent pour enfants. J'aime faire plaisir aux enfants, j'aime sortir avec eux. En fait, ça me fait plaisir de dépenser pour eux. Voilà. Et souvent, je participe aussi aux dépenses du foyer. J'aide mon conjoint, souvent aussi à payer des factures. Et lui aussi de son côté, il paye les factures, il s'occupe du manger, de nos besoins aussi, de nos grands besoins, pour ne pas dire des petits besoins. Merci.
Écoutez aussi le message de ce voisin qui est très lucide sur l'argent de sa sœur.
C'est Adama depuis Mbagne en Mauritanie. Moi, j'ai une sœur, tout ce qu'elle gagne dans sa vie, elle le reverse sur sa famille. Elle ne se soucie même pas d'elle, mais ce qui la préoccupe, c'est-à-dire c'est la situation familiale. Donc, c'est elle qui s'occupe de ses enfants, de leur habillement, de leur nourriture et tout. Donc, rarement qu'elle déverse son argent sur sa propre vestimentation ou sur les produits cosmétiques pour elle.
Alors, c'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup de messages, Héloïse Boll et Lucille Quillet, de femmes qui nous disaient « Moi, je dépense beaucoup pour mes enfants. » Je vous cache pas que l'argent des femmes, c'est quand même le genre de sujet, on ne sait pas très bien où on met les pieds et on se demande toujours si on n'est pas soi-même. Enfin, quand on est soi-même une femme, est-ce qu'on n'est pas en train de se fabriquer une nouvelle histoire de victimisation, de différenciation artificielle ? Est-ce qu'on ne regarderait pas tout simplement les chiffres, Héloïse Boll ?
Les chiffres, si vous voulez parler de l'épargne ou de la façon dont sont réparties par exemple les dépenses au sein d'un couple, on a eu deux témoignages assez clairs sur le sujet. on a assez majoritairement encore des femmes, et je pense que Lucie ne me contredira pas, elle a beaucoup aussi écrit sur le sujet, des femmes qui font... on a une répartition genrée des dépenses dans les couples, et c'est très dangereux, en fait.
Et ça veut dire quoi,
monsieur paye les grosses dépenses, j'entendais l'auditrice qui disait il s'occupe de nos grands besoins, et que madame paye les petites dépenses, les dépenses du quotidien, tout ce qui ne se convertit pas finalement en stock, ne constitue pas un patrimoine, de l'argent, la maison, le crédit pour la maison, éventuellement de l'épargne, eh bien en général...
C'est pas ça qu'elle paye, elle paye la nourriture des enfants.
Elle paye la nourriture et elles font plaisir aux enfants. Et souvent, elles le font à leur propre détriment, dans une posture un peu sacrificielle qui est pas toujours consciente et qui parce qu'elles ont envie de faire plaisir, elles ont envie que leurs enfants soient épanouis, se sentent bien, soient un peu choyés, etc. et fassent de bonnes études souvent et donc il y a une tendance à un investissement qui est très fort dans la famille et les enfants, au détriment de sa propre épargne et de sa propre sécurité financière. Mmh. Et ça, c'est des phénomènes qu'on observe vraiment dans beaucoup d'endroits et contre lesquels il faut lutter et sur lesquels il faut alerter, en fait.
Mais un homme qui rembourserait l'épargne pour la maison, à partir du moment où la maison est la propriété des deux membres du couple... Quel problème ça pose ?
Ça dépend de votre régime matrimonial, en fait, de la façon dont vous êtes organisé. Et donc, c'est très compliqué de le savoir comme ça du premier coup. Il y a plein de régimes matrimoniaux différents. Mais il y a des situations dans lesquelles la personne qui ne rembourse pas le crédit se met en danger, en fait. Et donc, il faut tout simplement essayer de se dire, qu'on gagne la même chose ou qu'on ne gagne pas la même chose. C'est important que les deux contribuent aux grosses dépenses et que les deux contribuent aussi aux petites dépenses ou aux dépenses qui laissent pas forcément de traces, les vêtements, l'alimentaire, etc. etc.
Lucille Quillet, comment vous est venue l'idée de sortir la calculette pour chiffrer les dépenses d'une femme qui vit en couple ?
Oui, alors moi donc, je suis journaliste, donc j'écris depuis quand même plusieurs années sur la vie des femmes. J'écris plus particulièrement sur leur vie professionnelle. Et en fait, c'est vrai que je réalisais qu'il y avait certes l'argent que les femmes dépensaient, mais il y avait aussi l'argent qu'elles ne touchaient pas au nom du couple et de la famille et des choix qui sont faits pour la famille, notamment quand il y a des enfants. À côté de ça, j'entendais beaucoup de stéréotypes hyper genrés et négatifs sur les femmes et l'argent. À savoir que les femmes sont quand même souvent entretenues, qu'elles sont nulles en argent, que les mathématiques, c'est pas trop leur truc, qu'elles laissent la déclaration d'impôt à remplir par leur conjoint, que ça ne... argent et femmes ne font pas bon ménage. On a aussi toutes ces idées reçues comme quoi elles sont hyper dépensières. On a aussi des stéréotypes sur les femmes vénales intéressées, c'est-à-dire qu'il y a un tabou autour de l'argent et des femmes. Dès qu'une femme parle d'argent, on va se dire qu'elle est calculatrice ou elle est manipulatrice ou elle est trop égoïste, elle pense trop à elle. Donc il y a en fait quelque chose qui se joue là-dedans aussi au sein du couple. C'est-à-dire que plus vous vous intéressez à l'argent dans le couple, moins on va considérer que vous êtes amoureuse et dévouée à votre famille. Donc ça met évidemment en danger l'indépendance économique des femmes. Donc moi, j'ai à partir de plein de petits constats, à la fois l'argent que les femmes dépensent, parce que les femmes ont quand même de l'argent à elles, mais aussi en pensant à l'argent qu'elles ne toucheraient pas au nom du couple et de la famille, je me suis dit qu'il y a quand même un gros manque à gagner. Il y a aussi des façons d'utiliser l'argent qui sont différentes. Il y a un coût d'opportunité sur le long terme qui est énorme. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça valait le coup de plonger dans le sujet. Il y a trois parties en fait dans le livre. Avant d'être en couple, vous dépensez de l'argent au nom du couple, du moins pour cet idéal, donc à la fois dans ce que j'appelle la charge esthétique, tout ce que vous allez dépenser en produits de beauté, et justement le voisin de Mauritanie parlait de tout ce que sa sœur dépensait en produits cosmétiques. En effet, l'addition est salée.
Il disait que sa sœur, voilà, elle mettait tellement d'argent pour s'occuper de ses enfants qu'elle n'avait plus rien pour elle-même, et le pour elle-même sous-entendait que c'était pour se rendre belle. Donc, et non pas pour épargner. Mais d'ailleurs, c'était intéressant. C'est intéressant parce que dans l'imaginaire des hommes, une femme qui garde de l'argent pour elle, en fait, c'est de l'argent d'argent qui est dépensé de manière un peu inutile pour se rendre belle et non pas pour se constituer une épargne. Alors vous cernez les dépenses et les manques à gagner. 21 000 euros dépensés au cours d'une vie pour s'épiler. Ça, c'est pour les plus dépensières qui vont chez l'esthéticienne pour... pour s'épiler. C'est pas le cas partout. Et puis, bien sûr, il y a une liste de courses assez vertigineuse, mais les hommes aussi ont des dépenses qui ne vont pas à l'épargne. Les hommes s'achètent du matériel informatique, des voitures, des biens qui perdent de la valeur et qui ne valent plus rien une fois qu'on les a achetés, qu'on les a possédés quelques années.
Ça reste quand même des biens plus durables. Et je rebondis sur ce qu'Héloïse disait en termes de répartition des dépenses au sein du couple. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. Pour résumer, les femmes vont dépenser leur argent dans l'éphémère, le non-valorisé. Vous n'allez pas briller dans un dîner entre amis en expliquant que vous avez fait une super affaire sur les paquets de riz et les fournitures scolaires des enfants. C'est pas comme ça. C'est des montants aussi qui ne sont pas inscrits et c'est des dépenses qui sont très chronophages. Là, on est dans le sillon de la surcharge domestique qui est assurée par les femmes en France. Bon, c'est des chiffres français dont je parle dans le livre.
Qu'on retrouve ailleurs.
72%. Malheureusement, les choses ne sont pas vraiment radicalement différentes ailleurs. 72% des tâches domestiques de base au sein de la famille sont assurées par les femmes. Donc dans cette même lignée, elles vont s'occuper des dépenses qui sont moins valorisées, qui sont éphémères et qui sont les plus chronophages. Là où un homme va s'occuper des gros postes, des grands besoins, comme disait la voisine de Brazzaville, qui sont valorisés, dont les montants sont inscrits. La différence, c'est que quand vous vous séparez et que vous mettez tout sur la table, qu'il faut faire le tri de qui repart avec quoi, ou de comptabiliser ce que chacun a donné pour le couple, vous n'avez pas du tout la même perception de ces dons, de ces dépenses-là. Vous allez peut-être avoir un avocat qui va vous dire « Mais tout de même, madame, vous avez fait des courses alimentaires, mais monsieur a payé les impôts pendant 10 ans. Il a acheté 2 voitures, il a remboursé le prêt. Et en plus, pour peu qu'une femme se soit mise à temps partiel pour s'occuper des enfants, elle va s'entendre dire qu'elle a arrêté de travailler et qu'elle était entretenue par son mari. » Alors qu'il y a de fortes chances que son mari, lui, ait pu continuer sa carrière comme il l'a fait en cumulant ses droits au chômage et ses droits à la retraite, parce qu'elle s'est arrêtée pour s'occuper des enfants. Il y a aussi toute une partie du travail domestique gratuit qui n'est absolument pas reconnu, alors que ça crée de la valeur. On dit souvent que les femmes sont un peu entretenues par les hommes. Moi, je considère que c'est l'inverse. Les hommes sont entretenus par le travail gratuit des femmes, par en fait tous les dons qu'elles font et qui leur permettent à eux de capitaliser sur le long terme, tandis qu'elles se retrouvent beaucoup plus démunies sur le long terme.
Alors dans 75% des couples, l'homme gagne plus que sa compagne, pas forcément beaucoup plus, mais plus en tout cas. Et en France, quand les couples se séparent, le niveau de vie des femmes chute alors en moyenne de 22% et seulement de 3% chez les hommes. Ça, ce sont des sources INSEE 2018. Donc, comment on peut expliquer une telle différence, Héloïse Boll ?
C'est assez simple. Vous avez un revenu moins important à qualification égale. Bon, ça, je pense qu'on est toutes assez informées du sujet. Vous avez des charges fixes qui sont quand même dans une séparation. En fait, vous doublez les charges fixes de logement, de facture d'électricité, de toutes ces choses-là. Et les charges fixes, elles sont assez difficiles à comprimer. Donc, vous avez des charges fixes qui sont... à peu près les mêmes finalement pour une femme que pour un homme, à cette différence près que régulièrement quand même ce sont les femmes encore qui logent avec les enfants et donc qui ont besoin d'un peu plus de surface. Et à la fin, eh bien finalement, vous avez ce qu'on appelle un reste à vivre, des sommes qui ne sont pas entamées par les charges fixes, qui sont beaucoup plus basses et un train de vie sur lequel elles sont obligées de se contraindre beaucoup plus.
Et quand la pension alimentaire n'est pas tout à fait suffisante, ce sont effectivement les femmes qui vont combler ce qui manque, notamment pour les dépenses concernant les enfants.
Et j'ajoute, si vous permettez, quand la pension alimentaire est versée. Et il y a aussi une autre tendance lourde qu'on observe chez les femmes, c'est très souvent dans les séparations, une réticence à aller devant les tribunaux, à remettre une pièce dans la machine judiciaire et quelque part à dévaloriser l'image du père de leurs enfants auprès de leurs enfants, etc. Et pour ne pas casser l'ambiance, elles acceptent finalement ou elles sont contraintes d'accepter des non-versements de pension alimentaire.
Alors ça change un petit peu là. Pour préserver les relations familiales apaisées, notamment avec les enfants, bien sûr.
Encore une fois, c'est un sacrifice au profit de la famille.
Alors vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Où passe l'argent des femmes ? C'est une question qui est réellement intéressante. On donne la parole à Félicia qui nous appelle de Dakar. Bonjour Félicia, soyez la bienvenue.
Bonjour Emmanuel.
Alors vous, qu'est-ce que vous répondez à cette question et comment tout au long de votre vie, vous avez réfléchi à cette question-là, votre argent, qu'est-ce que vous en avez fait, à quoi vous l'avez dépensé au sein de votre couple? Je crois que vous êtes divorcée. Hein.
Oui.
On vous écoute.
Alors,
Félicia.
Emmanuel. Je dirais tout d'abord que le mariage de maintenant devrait être célébré devant chez le notaire. Parce que c'est une société à responsabilité limitée. Tout le monde doit y mettre du sien, vu les bouleversements qu'il y a actuellement dans le monde. Donc, il faut participer. Nous sommes obligés de payer la ménagère, parce que ça nous incombe.
La ménagère, donc la personne qui s'occupe de votre maison, qui fait le ménage.
De notre maison, voilà. Avant, nos parents n'avaient pas cette latitude parce que bon nombre d'entre elles n'ont pas eu à avoir le loisir de travailler. Mais je dirais qu'au Sénégal, notre regard va d'abord dans la famille. Si nous travaillons, alors les tâches ménagères, comme je vous ai dit, nous incombent, alors nous payons l'aide ménagère. Sans compter l'amélioration de notre repas, notre intérieur et les enfants. Vient ensuite notre péché mignon, naturellement, entre autres. Voilà, devoir nous habiller, un truc. Donc moi, divorcée, j'ai toujours participé. Je n'ai jamais attendu qu'on fasse quoi que ce soit parce que j'avais un style de vie que je voulais. Voilà, un intérieur propre, accueillant et tout, une bonne alimentation. Donc, on y met du sien.
Mais pendant ce temps, votre mari, à quoi dépensait-il son argent?
Il participait quand même, parce que comme je dis, il ne faut pas que nous minimisions, nous, notre apport. Parce que c'est les grosses tâches, comme on dit, c'était le loyer, l'eau et l'électricité. Voilà, c'est des grosses charges.
Et est-ce que votre mari est parvenu à épargner plus d'argent que vous pendant vos années de mariage? Vous êtes restée mariée combien de temps, Félicia?
J'ai 15 ans.
Oui.
Ouais. Ah oui, ça... Il l'a fait, ce qui n'a pas été mon cas.
Vous n'avez pas pu épargner d'argent?
Rien.
Et pourquoi lui, il a réussi à épargner de l'argent, est-ce que vous savez?
Bon, il s'est toujours caché. Voilà, il y a des hommes qui ne vous disent pas ce qu'il y a, c'est fou. C'est après que l'on se rend compte que là, il y avait beaucoup de cacheterie, beaucoup de mensonges.
Qu'est-ce que vous appelez des cachotteries? Des comptes en banque que vous ne connaissiez pas? Vous étiez mariée? Vous n'aviez pas la visibilité sur ces comptes?
Rien alors. Là, en Afrique, c'est extrêmement rare que nous sachions ce qu'il gagne, ce qu'il a, ou rend son argent ou pas. Ça ne nous regarde pas, soi-disant.
Et, et vous-même, votre argent, ça le regardait?
Pas trop, parce que je ne lui donnais pas cette latitude-là. Mais je n'avais pas caché, moi, ce que j'avais.
Mais voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez aux voisines, finalement, Félicia?
De se prendre en charge, quand même. Voilà, il faut se prendre en charge. Il faut qu'il y ait beaucoup de communication dans le couple. Sans communication, ce couple ne peut exister. Voilà, se prendre en charge, parce que là, avec tout ce qu'il y a comme bouleversement, on ne peut pas s'attendre à ce qu'on fasse tout pour nous.
Merci Félicia de nous avoir appelé. Merci pour ce témoignage. Je pense qu'il y a pas mal de femmes qui se reconnaissent dans ce que vous racontez. Très bonne journée à vous à Dakar et vous continuez de nous téléphoner les voisines. Où passe l'argent des femmes? 33 7 64 45 51 41. Nous en discutons avec Héloïse Boll et Lucille Quillet et on va se retrouver dans quelques instants chez vous. Vous nous dites à quoi passe votre argent et on vous donne la parole juste après ce petit zouglou ivoirien. J'étais en train de chercher Le nom qui a le mérite de chanter tout haut ce que les voisins pensent tout bas. Femme, bouffe pas mon argent. Merci, Mr. Johnny.
Moi, la femme, bouffe pas mon argent. On me donne cadeau. Moi, la femme, bouffe pas mon argent. Oh, on me donne cadeau. Dans la vie, quand tu n'as pas l'argent, tu n'es pas jolie. Il faut avoir là-bas. Dans la vie, quand tu n'as pas l'argent, au moins tu as là-bas. Débrouille-toi pour que femme bouffe pas ton argent. Matin, midi, soir, on me donne cadeau. Eh mais c'est bien, on bouffe pas son argent. Et même quand je veux pas, oh, on me donne cadeau. Marc Amosoman, tu te plains de la villa. Tu dis que t'es jolie, mais elle te trompe. Oh. Est-ce que c'est joli, on mange? Dis-moi, est-ce que tu es fort là-bas? Tu es fort en bas, tu es fort là-bas. Tu n'as pas besoin d'être amoureux. Beaucoup de messages, tu n'es pas écrivain. Si seulement tu es bien équipé, c'est de ça qu'il s'agit. Cadeau, autorité qui aux igrées. On a des défauts, mais y a certains défauts qui font défaut. Exemple, non seulement tu es vilain, tu es avare et puis tu es jaloux. N'importe quoi. Devant les gens tu veux la commander, pendant la nuit oh, tu es fort à renfler. Au lieu de raconter partout qu'il y a des temples, ADH j'ai genre de soigner, sinon tu es malade. Charlie de Boto, Angé Baka.
De voisins, on est en direct sur RFI. On se pose cette question très simple et très complexe. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Je vous la rappelle la question. Où passe l'argent des femmes? On en discute avec vous, Héloïse Boll, conseillère en gestion du patrimoine, fondatrice de Oseille et compagnie. Vous avez publié Les bons comptes font les bons amants. Et Lucille Quillet, journaliste, vous avez publié Le prix à payer ce que le couple hétéro coûte aux femmes. Héloïse Boll, que vous racontent les femmes quand elles viennent vous voir avec ce sentiment qu'elles ne se sont pas suffisamment préoccupées de leur épargne, sachant qu'il y a des études qui sont menées pour le compte de banque, d'ailleurs, pour le compte d'établissements financiers. Donc le sujet, il est très documenté aujourd'hui. Il y a un âge qui est assez terrible pour les femmes, en gros entre 35 ans et 50 ans, où elles ne s'occupent pas du tout de leur argent, elles ne se posent pas de questions de ce qu'elles doivent en faire autrement que les dépenses du quotidien et de ce qu'elles doivent épargner, Héloïse Boll.
C'est le trou noir, en fait, cet âge-là.
35-50 ans.
Cette étude, elle est très récente et elle est édifiante parce qu'il y a un écart entre les hommes et les femmes de 15 points. C'est monstrueux. C'est vraiment très accentué, et ça veut dire en fait que c'est un âge qui correspond schématiquement à l'âge de la maternité, hein. On va pas se raconter d'histoire, c'est un âge où beaucoup de femmes décrochent sur le plan financier.
Ça veut dire 35% des femmes laissent leur conjoint gérer l'intégralité de leur placement.
Oui.
Contre 20% des hommes.
Oui. Et puis, il y en a une très forte part, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est plus de 60%, je crois, ou près de 60%, qui ne se sentent pas légitimes à gérer l'argent, à leur propre argent et l'argent du couple. Ce qui est quand même quelque chose d'assez... d'assez fou et qui relève probablement d'un syndrome de l'imposteur assez classique. Alors déjà, je voudrais dire une première chose. Il ne faut pas être bac plus 12 en finance pour s'occuper de son argent. Cette espèce de mythe selon lequel l'argent, c'est très compliqué, on n'y connaît rien, c'est beaucoup trop dur et il y a une barrière à l'entrée intellectuelle très forte, c'est un mythe et il faut vraiment en finir avec ce mythe. Bon, le résultat, c'est que moi, je vois quand même régulièrement des femmes qui arrivent parfois avant 50 ans en disant quand même là, je prends conscience qu'il faudrait que je me préoccupe du sujet et que je mette des choses en place, soit je me fasse tout simplement expliquer ce qui se passe parce que je n'y comprends rien. J'ai des femmes qui viennent me voir parce que quand elles vont chez le conseiller en gestion de patrimoine avec leur mari, le type ne leur adresse même pas la parole. Il y a quand même un sujet. Il y a un sujet
mais vous
de...
Vous leur parlez, parlez une autre langue? Comment vous parlez de placements qui sont les mêmes pour les femmes et les hommes?
La finance, c'est la finance. Une autre langue.
La finance n'a pas de sexe.
Simplement, on peut parler de façon jargonneuse et en se poussant un peu du col, ou on peut essayer d'expliquer les choses avec des croquis, des choses assez simples. Et puis, par ailleurs, une tendance de temps en temps à l'ultra sophistication financière chez des personnes qui ont des patrimoines assez importants, qui n'est pas toujours ce qu'il y a de plus pertinent à faire et qui peut se révéler un peu contre-productif. Simplement, quand vous faites ça, vous laissez les femmes à l'écart parce que justement, elles n'ont pas forcément cette formation en finance. Elles sentent qu'il y a cette barrière à l'entrée très difficile. Donc, c'est quelque part, ça vous arrange aussi un petit peu. Donc, finalement, moi, ce que je conseille aux femmes, et alors celles qui viennent dans mon bureau, mais surtout les autres, celles qui ne viennent pas, c'est ne restez pas à l'écart du sujet. Revendiquez votre place dans l'argent qui est le vôtre, dans l'argent qui est celui de votre famille, qui est celui de votre couple, et demandez des explications. Surtout si c'est compliqué, si on vous dit « t'inquiète, t'occupe, je gère », il faut demander des explications et il faut comprendre. Ça veut dire qu'il faut y consacrer un peu de temps. Malheureusement, ce trou noir là des 35-50 ans, c'est la charge mentale et ça veut dire qu'il faut s'en préoccuper parce que sinon on se met en danger.
Oui, mais pour s'occuper de son épargne, encore faut-il avoir de l'épargne, de l'argent à épargner, et c'est compliqué quand on dépense beaucoup pour la vie quotidienne. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Où passe l'argent des femmes? Merveille nous appelle de Port-Gentil au Gabon. Bonjour Merveille.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez 34 ans, vous êtes mariée, vous gagnez plus que votre mari, c'est ça?
C'est ça.
Ouais. Combien en plus, vous savez, en pourcentage à peu près?
On va dire 80%.
Ah oui, vous gagnez presque le double de votre mari.
Exactement.
D'accord. Et donc, ça devrait bien aller pour vous?
Oui, ça devrait bien aller, sauf que au fil des années, je me retrouve sans épargne. Malgré que je gagne beaucoup d'argent, je m'en fous sans épargne. J'arrive pas à faire des projets personnels. Par exemple, j'ai envie d'ouvrir un petit commerce pour avoir pour diversifier mes entrées d'argent, mais j'y arrive pas parce que la majeure partie de mon revenu va dans les charges de la maison.
Et pourquoi? Parce que votre mari est dans l'incapacité financière de participer?
Dans l'incapacité financière de participer, mais en même temps, il y a comme un petit manque de volonté.
D'accord.
J'en viens à me dire un peu d'égoïsme aussi.
Mais qu'est-ce qu'il fait de son argent, votre mari?
Bon, il va participer, par exemple, à rajouter un petit montant pour compléter la popote. Donc,
les repas.
Ouais. Les repas. Et le reste, il va peut-être aller jouer à un jeu de hasard ou aller prendre une bière avec des copains ou alors à des dettes contractées sans que je ne sois au courant et qu'il va les régler.
Donc finalement, il épargne pas plus que vous?
Non.
Oui. Mais l'argent devient un problème dans votre couple, Merveille ?
Oui, ça devient un problème parce qu'on n'arrive pas à en parler. C'est comme un sujet tabou. Ça vire tout de suite à la dispute, ça vire tout de suite à l'incompréhension totale. Et du coup, il y a beaucoup de frustration, beaucoup de non-dits et du coup, beaucoup d'éloignement. Mmh.
Et votre mari, finalement, il vous enferme dans quelle image pour que vous ne parveniez pas à en parler ?
Celle qui est égoïste, qui est féministe. Qui est rebelle, et puis voilà. Donc du coup, je me renferme, et puis je mets de côté tous mes projets, tous mes envies, et je m'occupe de tout. Mmh.
Qu'est-ce qu'on peut répondre à Merveille quand son mari lui renvoie finalement l'image de l'enquiquineuse, alors que c'est elle qui paye la majorité, qui règle la majorité des dépenses dans le couple ?
Vous ne pensez...
C'est le piège de l'épouse qui gagne plus.
Vous ne pensez qu'à l'argent, Merveille, si je comprends bien. on peut répondre que de toute façon, penser qu'à l'argent, c'est... penser en tout cas à l'argent... C'est une mesure de survie et de précaution. Mmh. C'est pas l'argent ne sert pas exclusivement à acheter des robes et des choses frivoles. Mmh. L'argent sert à survivre aussi.
Lucille Quillet, vous, qu'est-ce que vous en pensez de la situation de Merveille ?
Alors déjà, j'ai envie de dire à Merveille qu'elle n'est pas seule, qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation où l'argent est un sujet tabou et que quand on essaie d'en parler dans le couple, on passe pour quelque chose qu'on ne veut pas forcément être, c'est-à-dire quelqu'un d'égoïste. Moi, ce que j'entends, c'est que vous donnez énormément pour la famille, pour faire tenir la maison, là où votre mari, qui gagne moins, il a quand même des dépenses plus égoïstes, plus individualistes, parce qu'aller jouer à des jeux ou boire des verres avec des copains, c'est des dépenses qui lui sont personnelles, là où vous ne pouvez pas investir dans vos projets personnels. Donc là, il y a quelque chose d'assez injuste pour vous, mais c'est quelque chose, malheureusement, d'encore très fréquent. On est dans cette idée que quand on aime, on ne compte pas. Et moi, j'ai envie de dire, en fait, c'est peut-être tout l'inverse. Quand on aime l'autre, quand on lui veut son bien, on va tout faire pour qu'il ne soit pas lésé, pour qu'il soit protégé dans l'avenir et surtout pour qu'il se sente respecté en tant qu'individu. Ce qu'on refuse aux femmes à travers ce tabou de l'argent, c'est de penser à leur individualité, de penser à leurs besoins, de penser à ce qu'elles veulent mettre en œuvre pour elles-mêmes et aussi de penser à leur indépendance. Donc peut-être que Merveille, votre mari, vous traite entre guillemets de féministe. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose d'être féministe, c'est très sain parce que vous arrivez à penser à vous et à savoir ce qui est important pour vous. Après, ce qui est compliqué, c'est d'avoir cette conversation. En général, ça prend beaucoup de temps, ça nécessite beaucoup d'efforts et les femmes, encore une fois, Emmanuel, comme vous l'avez dit, elles ont une triple journée et quand on termine la journée entre le travail, les tâches domestiques, les enfants, on n'a pas la chance de discuter avec son mari. Après, il y a quand même plein d'outils maintenant qui sont à disposition, notamment sur Internet, sur Instagram. Il y a des livres qui sont là pour ça. Il y a des conseillers aussi qui sont là pour ça.
Pour remettre à plat exactement toutes les dépenses et essayer de mieux comprendre, mais finalement... comme ça se fait au ministère des Finances d'un pays, à travers la fiscalité. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est équitable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et comme vous le dites, quand on s'aime dans un couple, l'équité doit être aussi une valeur. Vous restez avec nous, Lucille Quillet. Merci à vous, Merveille, de nous avoir raconté votre histoire. C'est pas forcément simple de parler de couple, de parler d'argent. J'aimerais qu'on écoute Arlette qui nous a envoyé cette note vocale parce qu'elle nous pose deux questions. Écoutez-la.
Bonjour Emmanuel et les voisins, c'est la voisine Arlette de Pointe-Noire. Ma mère, quand elle était en couple avec mon père, au début de la relation amoureuse, papa se montrait très généreux, il n'y avait pas qui doit payer quoi. Mais ce n'est qu'après le mariage que les choses avaient changé. Papa avait les crédits immobiliers, automobiles et autres. Maman devait payer le courant, l'eau, le monsieur domestique, presque les finances domestiques. Mon père imitait la signature de maman sur les chèques en banque, sans son autorisation. Parfois, il inventait des pannes automobiles pour soutirer de l'argent à maman. Donc, quand elle mettait ses chèques à l'abri, c'était les paroles genre « tu me dépasses, tu as trop d'économies en banque ». Donc, c'est des complexes avec l'argent. Mais pour moi, L'argent de la femme appartient à la femme. Mes questions sont les suivantes. Tant qu'une femme gagne qu'une petite partie du revenu familial, non, tout va bien dans le couple. Mais si elle commence à gagner plus d'argent, cela crée du stress pour le conjoint. Pourquoi? Ma deuxième question, est-ce que dans les choix amoureux, faut-il se baser sur l'argent que l'on possède par rapport à l'autre? Merci, au revoir les voisins.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Lucille Quillet, est-ce que vous avez entendu les questions d'Arlette dans les choix amoureux? Est-ce qu'il faut se baser sur l'argent que l'on possède par rapport à l'autre?
Non, pas forcément, parce que déjà on ne choisit pas forcément de qui on tombe amoureux, voilà, et être discriminant parce que la personne gagne trop peu ou beaucoup plus que soi, bon, on peut passer quand même à côté de belles rencontres. Ce à côté de quoi il ne faut pas passer, c'est la possibilité de pouvoir en discuter dans le couple et surtout que les dons de chacun soit reconnu et que ces dons soient matériels, financiers ou immatériels. C'est-à-dire que si vous gagnez peu d'argent, mais que vous vous occupez des enfants, du ménage, de la nourriture, vous apportez des dons très importants dans votre famille. Il faut qu'ils soient reconnus parce que vous apportez aussi de l'opportunité pour votre conjoint de ne pas faire tout ça et donc de
progresser dans sa carrière. Et donc, il faut qu'il y ait une contrepartie, hein, c'est ça. Vous nous appelez au 33-7-64-45-51-41. Ça pousse au standard. Beaucoup veulent s'exprimer. Edwige est en ligne avec nous de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Edwige.
Bonjour Emmanuel.
Dans votre témoignage, vous avez cherché à nous dire que vous essayez de mener, d'avoir une gestion équilibrée de l'argent dans votre couple, Edwige.
Oui, tout à fait.
Racontez-nous.
Voilà, déjà j'ai l'avantage, parce que je pense que c'est un gros avantage que j'ai, d'avoir un époux qui est très détaché sur... Il n'a vraiment pas d'attachement sur l'argent. Hein. Ouais. L'argent, pour lui, c'est un outil, c'est un instrument, c'est un élément. Il n'est pas très porté sur l'argent. Ouais. Il sera difficile que nous ayons des discussions sur l'argent. Ouais. Du coup...
Et pour vous
pour moi, c'est un peu pareil. Hein. Je vais dire que c'est mon binôme.
Ouais.
On ne s'entend pas sur d'autres détails, mais sur ce détail-là, je pense que c'est mon binôme. Nos ressources, particulièrement moi, mon époux ne me demandera jamais ce que je fais de mon salaire ou bien comment est-ce que j'ai utilisé mon salaire. Non. Vraiment très rarement, en 20 ans de mariage, je ne sais pas si c'est arrivé deux fois, hein, je ne pense pas.
Est-ce que vous parvenez à épargner de façon équitable par rapport à votre époux?
De façon équitable, non, je ne vais pas parler d'équité. Donc, ici, je ne vais pas parler d'équité parce que d'équité ou bien d'égalité ou bien d'équilibre, non, parce que ce n'est pas une préoccupation dans notre ménage. Moi, quand j'ai mon salaire, oui. je vais couvrir mes besoins à moi. Vraiment, c'est si j'ai envie de m'offrir des soins à un institut, je ne vais pas me gêner. Je vais le faire. Et puis, si j'ai des courses pour la maison, du Javel... de la lessive, du petit déjeuner.
C'est ça, vous avez des dépenses que beaucoup de femmes ont déjà citées, mais vous épargnez aussi dans des tontines, hein, je crois, Edwige.
Oui. Donc, à côté de ce que je fais habituellement, j'ai, comme toute bonne africaine camerounaise, je fais partie des tontines avec des copines dans lesquelles j'épargne un peu d'argent. Du coup, quand je reçois ma cagnotte à la fin de l'année, je vais verser dans un compte commun que j'ai avec mon époux.
Et votre époux, il fait la même chose aussi quand il épargne et qu'il touche des intérêts, par exemple, il va le verser aussi sur le compte commun?
Oui. Lui n'attend même pas il n'attend pas de faire des épargnes.
D'accord.
C'est vrai que nous avons trois comptes. C'est-à-dire, moi, j'ai un compte. J'ai mon compte. mon époux a son compte, mais nous avons un compte commun.
D'accord. Donc voilà, une gestion équilibrée qui ne pose pas de problème entre vous. On donne la parole aussi. Merci de nous avoir appelé, Edwige, à Ludovic aussi, qui est en couple. On vous écoute. Vous êtes à Douala, au Cameroun, Ludovic. Bonjour.
Bonjour, Emmanuel.
Alors, vous, comment vous percevez le sujet où passe l'argent des femmes ?
J'avoue que c'est un sujet extrêmement passionnant. Donc, il suffit de rencontrer quelques groupes de jeunes, des jeunes hommes et des jeunes femmes, qui c'est un sujet qui passionne énormément.
Mais en ce qui vous concerne ?
Alors, en ce qui me concerne, je suis en couple, pas encore légalement marié. Ma compagne, elle travaille. Moi également, je travaille. On n'a pas encore eu une répartition, je vais dire quoi, des charges communes, parce que on ne vit pas encore ensemble. Mmh. On se retrouve peut-être pendant les vacances ou quand il prend son congé. Mais de manière un peu générale, je pense que ce sur quoi nous sommes accordés, ce sont les charges qui concernent les enfants, les questions de santé. Donc que ce soit elle ou ma situation de santé, on peut gérer de manière commune. Mmh.
Les enfants et la santé, vous allez faire un pot commun finalement pour ces dépenses-là.
Hein. C'est beaucoup plus... comme mon entreprise, j'ai le privilège d'avoir l'assurance qui couvre les enfants. Donc l'assurance couvre les enfants. Et elle, son assurance dans son entreprise, c'est elle seule. Mmh.
Merci Ludovic de nous avoir appelé de Douala. J'aimerais vous poser la question, Lucille Quillet. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une gestion équitable dans un couple ? Est-ce que même on peut établir un couple financièrement équitable ?
Oui, alors vous pouvez être un couple financièrement équitable dans le sens où vous parlez d'argent, où vous pouvez tous les deux mettre de l'épargne de côté, où ce qui est apporté par chacun est reconnu, donc même quand il ne s'agit pas de l'argent physique, mais du temps qui est donné à la famille. Après, avoir une gestion équitable, je trouve que c'est aussi faire un peu proportionnellement par rapport à tout ça. Il y a plein de couples qui font 50-50 dans les dépenses alors qu'ils ont des gros écarts de revenus. En moyenne, en France, on a au sein d'un couple 42% d'écarts de revenus. Donc c'est des écarts qui sont dus à des métiers différents, des âges aussi différents, des temps de travail différents. Donc,
vous dites carrément dans votre livre, Lucille Quillet, que pour beaucoup de femmes, le 50-50, c'est une marque de fierté, c'est un gage de dignité, que ça prouve leur indépendance, leur autonomie, leur pouvoir d'achat, et qu'elles défendent leur honneur. Moi, entretenu, jamais, disent-elles en dégainant la carte bleue. Entretenu, non, écrivez-vous, arnaqué, malgré elles.
Oui, oui, bien sûr.
Dans le cas où elles gagnent moins que leur mari. Hein.
Voilà, c'est quand même gros de demander aux femmes de faire 50-50 dans une société qui ne le fait pas.
Bah dans une société où, en tout cas, la fiscalité ne demande pas le même pourcentage d'impôts en fonction des revenus. Il y a quand même des tranches en fonction de ces revenus. Donc finalement, c'est ça
que... Oui, bien sûr, mais c'est-à-dire que vous n'allez quand même pas dépenser la même chose. Quand déjà, pour être en couple, vous devez dépenser des sommes quand même très importantes pour être belle, pour être mince, pour être épilée, pour être bien maquillée. Parce que si vous ne le faites pas, vous êtes considérée comme une mauvaise candidate au couple. On va dire que vous n'êtes pas motivée. Vous allez aussi dépenser beaucoup d'argent dans la charge contraceptive. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui bénéficie aussi aux hommes. Les hommes n'ont pas eu les enfants dont ils ne voulaient pas, parce que des femmes ont fait du travail contraceptif. Il ne s'agit pas que d'une pilule qui coûte 2 euros, c'est aussi du suivi gynécologique, parfois des dommages collatéraux de la contraception, tout plein d'examens qui coûtent cher et qui, en plus, ne sont pas toujours remboursés, qui prennent du temps, qui vont faire que parfois les femmes doivent poser des journées de congé au travail pour ça, donc elles vont aussi être mal vues. Donc en fait, on dépense quand même beaucoup pour le couple, on gagne moins en salaire, et en plus, il faudrait faire 50-50, là où du coup, ça permet aux hommes de beaucoup plus s'épargner. Tandis que vous, à la fin du mois, sous principe d'égalité et de féminisme, vous n'avez plus la même marge financière pour épargner, investir.
Il nous reste très peu de temps, Lucille Quillet, je suis désolée, je voudrais donner aussi la parole à notre conseillère Héloïse Boll sur la gestion de patrimoine. Juste petite parenthèse, il y a quand même des auditrices qui nous ont bien dit que le compte commun prenait en charge les gestions de la santé, et donc bien évidemment la gestion de la santé gynécologique des femmes, et qu'en général c'est souvent quand même mis dans un pot commun. Pour ce qui est des couples et des familles, bien évidemment, c'est pas le cas pour des femmes célibataires qui ont des relations avec des hommes et qui ne sont pas réellement en couple. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Héloïse Boll, peut-être, il nous reste une minute. Comment les femmes peuvent changer leur façon de considérer l'argent? Quels conseils basiques vous leur donnez aujourd'hui pour que leur argent ne parte pas que dans des choses totalement éphémères, produits ménagers ou shampoing pour les cheveux?
Je fais un ajout sur ce qu'a dit Lucille sur le 50-50. Le 50-50, c'est dans nos têtes. Le code civil en France dit que chacun participe à proportion de ses moyens. Et ça, c'est quand même le juge de paix. Et une répartition équitable, c'est pas 50-50 quand on gagne pas la même chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on arrête la répartition genrée des dépenses. Chacun dépense pour la maison, mais aussi pour les anoraks et toutes les petites choses. Et puis, vraiment, vraiment, il faut se sentir non seulement autorisé, mais obligé de s'intéresser à ses comptes pour des questions de survie, en fait. Parce que vous avez beau dire « Non, mais on partage tout », à la fin, les caisses de retraite ne partagent pas tout, par exemple. Quand vous n'avez pas cotisé, eh bien, vous n'aurez pas de retraite.
Les femmes touchent 40% de moins à la retraite, en tout cas dans un pays comme la France. Merci à toutes les deux, Héloïse Boll. Votre société s'appelle Osaille et compagnie. Vous avez publié « Les bons comptes font les bons amants » et Lucille Quillet, merci à vous d'avoir été en ligne avec nous. Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes, aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci à vous. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons éducation, direction les universités britanniques. Après le Brexit, où sont passés les étudiants européens? Depuis que le pays est sorti de l'Union européenne, ils doivent maintenant débourser des frais d'inscription très élevés et ils préfèrent se tourner vers d'autres destinations comme le Canada. Est-ce qu'on peut parler d'une véritable perte de talent pour les universités du Royaume-Uni? On en parle demain et bien sûr, vous pourrez nous téléphoner. On se quitte avec un peu de femmes et des paillettes surtout. Destiny Child. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I buy. The clothes I'm wearing, I buy. The rock I'm rocking, I buy.
Taught and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you fund. Depend on no one else to give you what you want.
The shoes on my feet, I love the clothes I'm wearing,
I
milliards de voisins sur RFI, c'est fini. On se retrouve demain, même heure, même endroit, avec bien sûr l'équipe, Juliette Brault, Delphine de Dianos, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast à l'heure qui vous convient, ainsi que les conseils de nos invités. Dans une minute maintenant, le journal sur RFI.
7 milliards de voisins, c'est fini.